Sur ce qui se passe ici et ailleurs.
The White House confirms the United States is now set to impose a 104% tariff against Chinese goods.
Les enjeux qui te concernent.
Taxe aux choses, c'est la bullshit.
On enlève ça?
On en parle plus tard.
Le but gagnant de la veille.
Cross-eyed Ovechkin fires! Score! Alex Ovechkin is the greatest goal scorer in the history of the NHL.
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Ça déboule les textos!
Boulevard 102.1. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir Québec. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je suis animateur de Marceau Soir, qui est un podcast assez simple. On prend un invité puis on lui jase pendant 60 minutes. Je te présente mon invité dans les prochaines secondes. On a pogné quoi? On avait un maximum de 19 pour aujourd'hui. On a pogné le 21-22 degrés. On a été relativement gâtés. Quelques éclaircies ce matin. Par la suite, ben, ça s'est gâché. Des nuages et cet après-midi, ce soir, on parle encore de risque d'orage. Donc, je ne sais pas, tout dépendant dans quel secteur, là, c'est possible que ça tombe encore sur votre tête. Pour ce soir, de la pluie, un minimum de 7 degrés. Pour ce qui est de jeudi, ce sera nuageux avec 60% de probabilité d'averse, des températures stables à près de 7 degrés. Vendredi, ce sera nuageux avec un maximum de 10. Dimanche, une belle journée ensoleillée. Vendredi, nuageux avec un maximum de 10. Samedi, une belle journée ensoleillée avec un maximum de 19. Et dimanche, aussi ensoleillée avec un maximum de 16 degrés. Donc, pour ce qui est du week-end, ça va être plein soleil. Profitons-en, les amis. Mon invité de ce soir, il fait un retour à l'humour. C'est un gars que vous connaissez certainement. C'est Alexandre Champagne. Alexandre Champagne qui était de passage à la salle Albert Rousseau il y a de ça quelques jours, c'est-à-dire lundi. Et il nous présentait La Grande Désorganisation. C'est le nom de son spectacle. C'est un spectacle qui va faire jaser dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, puisque pour tous ceux qui ont assisté lundi, ben, ils ont été agréablement surpris. La critique est bonne pour ce qui est du show d'Alexandre Champagne. Donc, on passe une heure en sa compagnie dans les prochaines secondes. Marceau le soir, ça débute à l'instant. Bonne écoute.
Marceau le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
Alexandre Champagne, salut!
Bonjour!
Il y a des beaux jours pour toi ces temps-ci, puisque tu fais tes premières sur scène. La Grande Désorganisation, d'ailleurs, tu étais à Québec il y a de ça quelques jours. Ce soir, tu es dans le secteur de Sherbrooke aussi. C'est du beau qui arrive pour toi présentement.
Ben oui, je trouve ça vraiment plaisant. J'en profite pendant que ça passe, hein, parce que c'est jamais linéaire, le bonheur. Il y a des journées plus difficiles, des journées plus faciles et agréables. Puis je te dirais que oui, ces temps-ci, c'est très agréable d'avoir la chance de faire mon métier, de me promener un peu partout à travers le Québec. Puis d'avoir joué à Québec là, lundi à la salle Albert Rousseau, j'étais sur un petit nuage. J'ai pris ça, j'ai mis ça dans mes poches pour mes souvenirs. Puis je continue encore la tournée. J'ai comme une pause. Là, je joue à Jonquière le 17 mai.
Aussi, oui.
Puis ensuite de ça, j'ai une pause jusqu'au 23 septembre. Et après ça, je recommence à faire des spectacles.
Ah, c'est très cool. Puis est-ce que ça te fait du bien de te faire appeler Alexandre Champagne, l'humoriste?
Ben, ça change pas grand-chose. Tu sais, quand t'as un côté public à ta vie puis t'es exposé, les gens s'approprient ton histoire, ils s'approprient un peu qui t'es, ils font eux-mêmes leur propre idée de ton identité. Fait que j'aime bien le sobriquet, là, humoriste. Je trouve ça cool, mais je me sens toujours mal avec un titre en particulier parce que je sais que je vais peut-être changer d'idée. Je sais aussi que j'ai d'autres talents, j'ai d'autres choses que j'aime faire. Donc, j'aime mon prénom puis mon nom de famille. Puis, pour le moment, humoriste, oui, c'est cool parce que c'est un retour à la scène aussi. Là. Ouais. Puis, ce qui me fait le plus du bien là-dedans, c'est de sortir de l'Internet puis d'aller rencontrer des gens aux quatre coins de la province, d'avoir un moment où on rit tout le monde ensemble, puis ensuite de ça, de repartir chacun chez nous, puis d'avoir un bon souvenir. Ouais, c'est ça qui fait que je suis content d'avoir ce titre.
Parce qu'Alexandre Champagne, on le voit passer sur les réseaux sociaux, on se souvient de Trois fois rien avec Marie-Lou et tout ça. Moi, je t'ai connu dans...
Trois fois par jour, Trois fois rien, c'était Louis Morissette avec
JF
Barry puis Alex Perron.
je me souviens, moi, de t'avoir vu dans Contrat de gars, mais en m'informant un peu plus sur toi, j'ai appris que tu avais débuté l'humour très jeune. Tu es rentré à l'École nationale de l'humour très, très jeune.
J'avais 18 ans.
18 ans. Puis qu'est-ce qui t'a amené à l'école de l'humour à 18 ans? Puis comment on accepte un jeune homme à 18 ans pour faire de l'humour? C'est hallucinant. Je veux dire, il n'a rien connu à 18 ans, le gars, là.
Ben, c'est exactement ça. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Puis là, je vais parler de mon expérience parce qu'il y a encore des jeunes qui rentrent de nos jours à l'école de l'humour qui sont très jeunes avec une excellente essence comique. Puis je pense qu'une excellente essence comique peut pallier un manque d'expérience humaine. Mais moi, j'avais une excellente essence comique. J'avais pas beaucoup d'expérience humaine, évidemment. À 18 ans, j'avais pas vécu grand-chose. Puis je pense que je me suis démarqué plus au camp d'impro après, à la sélection, qu'à l'audition d'un numéro. J'avais pas non plus la discipline d'écrire des numbers, de faire des spectacles, de faire de la tournée. Puis quand j'ai fait la tournée de l'école de l'humour, c'est là que j'ai réalisé que j'avais pas l'étoffe d'un humoriste à cet âge-là. J'avais d'autres choses à vivre. Puis ben, il est arrivé plein d'affaires aussi. J'ai rencontré Marie-Lou, on est parti de l'entreprise, tout ça. Mais pour répondre plus spécifiquement à ta question, comment on accepte un jeune comme ça, je pourrais pas te dire. Mais je sais qu'avec le recul, j'aurais dû attendre d'autres années. En même temps, ça a donné le gars que je suis maintenant.
Ouais.
Puis j'ai aucun regret, là. Je regrette absolument rien. Mais je me dis qu'aujourd'hui, si je fais de l'humour, ce qui est bénéfique à mon humour, c'est toute l'expérience que j'ai vécue dans les dernières années. T'sais. C'est dans les 22 dernières années. C'est ça qui fait en sorte que je pense que là, j'ai quelque chose qui se peut sur un stage.
Ah, certainement. Puis, mais je me dis juste, les professeurs ont dû voir quelque chose en toi pour t'accepter parce que j'ai plein de chums autour de moi. Je jase un peu avec la communauté artistique. J'ai plein de chums qui se sont essayés, qui ont été carrément refusés à l'École nationale de l'humour. Puis c'était des gars qui avaient, à l'époque, c'était quoi, 22, 23, 24, 25 ans. Ils voulaient rentrer dans le bon temps, puis ils ont été tout simplement refusés pour diverses raisons là, qu'ils m'ont pas mentionné. Mais toi, ça a fonctionné à 18 ans. Donc les profs ont dû voir quelque chose en toi, là.
Probablement, oui. Il faudrait avoir la conversation avec Louise Richer, qui est la directrice de l'École de l'humour. D'ailleurs, je pense que je suis sinon le seul élève de l'École de l'humour qui a été mis dehors et réaccepté ensuite. J'avais écrit une lettre. Louise, elle m'avait dit, écris-moi une lettre d'excuse. En fait, pas une lettre d'excuse, mais une lettre de motivation. J'avais écrit que c'est ça que j'avais envie de faire, mais bon, ça a été un drôle de moment dans mon parcours. Mais tu sais, un des gars que je trouve le plus drôle au monde, c'est Jonathan Roberge, mon complice de contre eux. Jonathan a été refusé à l'École de l'humour. Puis ça, ça me fait rire parce que ça parle du côté arbitraire un peu, mais je suis pas la personne qui fait les sélections. Puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut être pris. Puis ça se peut qu'il y ait des gens qui soient pris, que finalement c'était pas ça qu'ils voulaient faire ou c'était peut-être pas ça leur destin. Tu sais, c'est artistique, hein. Fait qu'il y a un côté très subjectif à ça qui est difficile à quantifier ou à rendre scientifique. Fait que pour les gens qui ont été pris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas été pris, tant pis. Mais un n'empêche pas l'autre. Tu peux être humoriste aussi maintenant grâce aux milliers de plateformes pour se diffuser soi-même ou aux centaines d'endroits au Québec pour faire de l'humour. Je pense que ça change pas grand-chose. L'école, moi, ce que ça m'a amené, c'est la connaissance du milieu, comment ça fonctionne. Puis dans ce temps-là, c'était pas aussi, il n'y avait pas autant d'avenues possibles qu'aujourd'hui. Fait que je serais très curieux de voir le cursus aujourd'hui. Je sais qu'ils se sont adaptés. J'ai des amis qui ont enseigné à l'école. On m'a même proposé d'enseigner aussi à l'école, chose que j'aimerais faire dans le futur, surtout pour les environnements numériques et ces choses-là. Mais c'est une expérience comme une autre. Puis tant mieux s'ils m'ont pris. Ça fait, comme je te disais, le gars que je suis aujourd'hui.
Mais très jeune, est-ce que tu suivais le milieu de l'humour? On n'est pas de la même génération. Ouais. Je pense que j'ai quelques années de plus que toi. Mais moi, j'ai pogné la fin de Sol et Goblet. J'ai pogné Marc Favreau. Wow.
T'as quel âge, toi?
Je suis en quarantaine, fin quarantaine.
Moi, j'ai 39.
C'est ça. Fait que moi, j'ai pogné la fin de Marc Favreau. J'ai pogné le début, je pense, de Daniel Lemire, le début de Patrick Huard aussi. Donc, je les ai connus assez jeunes. Mais toi, de ton côté, quand tu étais très jeune, c'était qui étaient les humoristes qui étaient bien en vue au Québec?
Pierre Légaré, Daniel Lemire, Lise Dion, Dominique Michel. Mon préféré, c'était Michel Courtemanche.
Ouais.
Michel Courtemanche, mon père me mettait la cassette VHS d'un galage de sport qu'il avait enregistré, puis il faisait juste me mettre le numéro du karaté de Michel Courtemanche en boucle. Ça, c'était mon numéro préféré, puis on est allé le voir en spectacle, Michel Courtemanche, à la Place des Arts. Et puis, sa première partie, c'était Patrick Huard, je devais avoir 8 ans. Puis à ce moment-là, Patrick faisait pas de l'humour qui était pour les jeunes de 8 ans. Mais il y avait beaucoup d'enfants dans la salle, c'était drôle, parce que c'était des mimiques, c'est universel le langage humoristique de Michel Courtemanche. C'était ça dans ce temps-là. Puis après ça, Réal Bélan, les Chicken Swell, les Denis Drolet, trois spectacles pendant lesquelles j'ai pensé que c'était physiquement possible de vomir de rire, tellement je trouvais ça déjanté, complètement fou. Qui a eu d'autres? Qui je suis allé voir d'autres? Ben, Louis-José Hood. Louis-José Hood, quand j'étais au secondaire, encore aujourd'hui, je suis un grand fan, surtout pour son éthique de travail, sa façon d'écrire, sa créativité quand il est à l'extérieur de ses one-man shows. Ça, j'aime beaucoup ça. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. J'en ai parlé récemment en entrevue, tu sais, du fait que j'aime évoluer maintenant dans le milieu de l'humour parce que il y a de la diversité. Pas que j'avais pas ma place, j'avais 100% de ma place avant puis aujourd'hui, là. Mais on dirait qu'un milieu de travail, un environnement de travail avec des gens qui sont contents d'être là, c'est beaucoup plus encourageant, c'est beaucoup plus plaisant de faire son métier là-dedans. Fait que je suis content de qu'est-ce qu'on avait à l'époque, mais pour le bien du milieu puis pour le plaisir des spectateurs, je trouve que le milieu d'aujourd'hui est dans une très bonne période.
Quand tu annonçais à tes parents que c'était le métier que tu voulais faire, ton père t'amenait dans des spectacles d'humour, ça a été quoi leur premier réflexe?
Il trouvait ça normal.
Normal?
Il savait très bien. Wow, il était comme, OK, c'est bon, okay. Vas-y. T'sais, mes parents, je leur en dois une bonne... Là, ils ont fait une bonne job de parents dans le fait de m'encourager puis de ne pas juger. C'est drôle parce que ma mère, quand je suis sorti de l'école de l'humour m'avait... J'étais un peu épuisé de la tournée. J'étais fatigué. Puis tout le monde était pas mal là-dedans. Puis je savais pas trop si c'est ça que je voulais faire. Fait que je me suis racheté une caméra. C'était très longtemps que je fais de la photo. J'ai commencé à 6 ans avec mon père. On avait une chambre noire, puis... J'ai passé par toutes les étapes, puis je me suis racheté une caméra en sortant de l'école de l'humour, puis ma mère me sermonnait, elle dit « Regardez tes sous, l'humour c'est pas payant tout de suite, nanana. » Elle dit « Tu feras pas d'argent avec ta caméra. » Et 5-6 voyages payés plus tard, grâce à ma caméra, ma mère était comme « Hey, c'était quand même une bonne idée de faire ça. » Fait que tu sais, des fois les parents, ils veulent nous protéger, tout ça, puis ils veulent qu'on soit toujours bien dans le confort, mais je pense que c'est important de laisser son enfant vivre ses affaires. Puis mes parents ont eu un bon instinct quant à l'équilibre entre le support et la liberté de mon côté. Fait que je me trouve, c'est pas des gens fortunés, c'était des gens qui travaillaient très fort, comme genre tout le monde, là. Puis ils ont soufflé dans mes voiles, peu importe la direction que je prenais, puis ça m'a donné un bon coup de main là-dedans.
Ouais. Ben, des fois, les parents ils nous donnent des conseils, mais c'est au travers de leur peur, bien entendu. Puis, tu sais, ben moi, oui. j'ai deux jeunes garçons, puis je sais pas comment ils vont virer. J'espère qu'ils virent un peu comme leur mère plutôt que comme leur père. Mais ça va être mon premier réflexe si jamais j'ai mon petit Joshua ou mon petit Isaac qui me dit... Papa, j'aimerais ça faire de l'humour. Je vais dire oui, l'humour, vas-y, puis lance-toi là-dedans. Mais ce que je veux, c'est que tu ailles chercher ton cégep. Ce que je veux, c'est que tu ailles chercher peut-être une job, un bac, peut-être si tu le désires, ou encore une autre profession que tu aimerais. Mais j'aimerais ça que tu ailles un plan B. Ça serait mon conseil que je donnerais à mes enfants aujourd'hui. Parce que, tu sais, je regarde le milieu de l'humour, exemple. Là. Dans le temps, quand on était jeunes, toi et moi, il y en avait quoi? Une quinzaine d'humoristes qui fonctionnaient au Québec. Aujourd'hui, il y en a quoi? 500, 1000 qui s'essayent. Puis là, de plus en plus, on a des bars à Montréal, des bars à Québec, des bars à Trois-Rivières, Drummondville, Sherbrooke, qui font des soirées humour où des jeunes poussent puis ils veulent faire ce métier-là. C'est un métier qui est très incertain. Ça demande énormément de talent. Puis ça demande surtout de ne jamais abandonner. Là.
Exact. Mais il y a aujourd'hui plus d'opportunités qu'à l'époque de pouvoir en vivre de façon décente. Puis l'enjeu qu'on avait à cette époque-là, mettons, je suis sorti de l'école en 2007, c'est que tu crevais de faim parce qu'il n'y avait pas de place où tu pouvais jouer, puis Internet, c'était les premiers pas, tu sais. Ou tu étais big, puis tu avais ton one-man show. Maintenant, il y a toutes sortes de manières de s'approprier ce marché-là, puis de faire des sous de façon convenable, puis d'animer, de produire, de faire un podcast, ça, on a démocratisé l'accès à l'audience. Puis je pense que c'est moins incertain que ce l'était avant, mais encore, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais il y a de plus en plus de place pour un in-between entre tu crèves de faim puis tu fais des millions par année. Tu sais. Il y a ça que je trouve intéressant aussi. Moi, j'ai jamais eu de plan B dans la vie. Je me suis toujours dit, je vais foncer vers ce que j'aime, puis si jamais ça ne fonctionne pas, je vais juste m'ajuster. C'est une façon différente de voir les choses. J'ai eu un parcours scolaire catastrophique, des bonnes notes, mais j'avais de la difficulté à rester en place tout le temps. Fait qu'on dirait que pour moi, je me disais, ben je vais aller où ça me tente, puis mes parents m'ont aidé avec ça. T'sais. Mais j'ai eu de la chance aussi, fait que ça serait difficile pour moi. Moi, j'aimerais ça que ma fille poursuive l'école après le secondaire. J'aimerais vraiment beaucoup ça, qu'elle s'intéresse à plein de choses. sans non plus lui mettre la pression qu'on met aux jeunes aujourd'hui de dire, bon, mais à tel âge, tu dois avoir décidé ce que les 40 prochaines années de ta vie vont avoir l'air. Ça, c'est, pour moi, c'est utopique là, de penser ça. Mais tant mieux si elle choisit une carrière, un métier, si elle veut être dans... Peu importe ce qu'elle veut, je m'en fous, honnêtement. Là. Si Jeanne veut être ouvrière, si Jeanne veut devenir pharmacienne, si elle veut chanter comme sa mère, si elle veut reprendre la business ou pas reprendre... T'sais, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les gens sont des bonnes personnes? Est-ce que leur système de valeurs est bon? Après ça, on a besoin de tout le monde pour faire plein d'affaires, tu sais. Fait que, elle fera bien ce qu'elle veut, tant qu'elle le fait avec honneur, dignité, qu'elle respecte les autres, puis qu'elle apporte quelque chose à sa communauté, moi, je vais être bien content.
Est-ce que, t'es rentré à l'École nationale de l'humour à 18 ans, après ça, bon, visiblement, tu sembles, ça n'a pas fonctionné au départ, c'est revenu par la suite, t'as fait l'École nationale de l'humour, t'as rencontré ton chum Jonathan Roberge, puis là, vous avez parti Contrat de gars. Moi, je vais te dire, j'étais un auditeur, un téléspectateur de Contrat de gars, puis à l'époque, je réalisais pas à quel point le montage était juste hallucinant. Ce qui me faisait rire, c'était vos personnages, puis c'était exagéré à côté, puis des fois, je me reconnaissais au travers des personnages. Puis là, tantôt, juste avant l'entrevue, je suis retourné voir le visuel de Contrat de gars. Alexandre Champagne, c'est juste hallucinant ce que vous réussissiez à faire dans le temps pour l'époque. Là. C'était capoté, ben raide, c'était déjanté. Là.
Ben, je vais donner le mérite à Pierre-Luc Gosselin, qui était le monteur. En même temps, Pierre-Luc faisait aussi la réalisation, puis il faisait tout ce qui était... les effets spéciaux et compagnie. Nous autres, on avait des idées. Joe et moi, on avait des idées, puis on donnait l'idée à Pierre-Luc. Pierre-Luc faisait arriver les choses. Pierre-Luc Gosselin, c'est un génie du montage. C'était un one-man army à l'époque. On avait fait des choses incroyables avec lui. Puis c'est vraiment lui... Tu sais, c'est un travail d'équipe, là, Contrat de gars. Joe et moi, nos idées, le personnage de Joe, son casting impeccable, notre envie de faire de l'humour absurde, puis le talent de Pierre-Luc pour rapper ça, faire un produit final qui se pouvait... Pour l'époque, on était en avant de pas mal d'affaires parce qu'on arrivait avec la technologie puis le savoir-faire de Pierre-Luc. Tu sais. Après ça, aujourd'hui, c'est plus facile de faire ça, c'est plus accessible, mais reste que Pierre-Luc a encore un edge de nos jours si on regarde le travail qu'il fait. Puis c'est ça. Je suis content de voir que les gens s'en souviennent bien. Puis c'était notre crainte quand on est revenu. On s'est dit, est-ce que ça vit mieux dans le souvenir des gens? Qu'est-ce que ça pourrait faire dans la réalité aujourd'hui. Puis finalement, je pense qu'on a réussi à s'adapter. On est encore en train d'ajuster qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on est revenu il y a un mois.
Ouais.
Puis on a vraiment du plaisir à faire ça. Puis on s'ajuste. On n'a pas peur de continuer à faire des niaiseries. Tout ce qu'on a fait à date, il n'y a personne qui a chialé en faisant que ah, c'est trop élevé ou c'est vulgaire ou il y a des groupes qui vont se sentir visés. Les seules personnes qui chialent, c'est la même catégorie de personnes qui disent qu'on ne peut plus rien dire. Ça, c'est, je trouve ça, c'est comme du bijou. Là, ça me fait rire. On peut plus rien dire, mais tu chiales contre des gens qui utilisent la liberté d'expression. Ça me... Moi, je trouve ça magnifique. Je pense que tu peux rire de tout, mais tu peux pas rire de tout avec tout le monde. Mais je pense qu'on le fait intelligemment puis qu'on s'en sort bien. Mais je regardais des montages de Contrat de gars, puis on dirait que les deux premiers épisodes, on avait juste l'air fâché. Puis quand on s'est mis à faire des trucs absurdes, genre la chronique de John puis tout ça, là, je trouve qu'on a décollé, tu sais. Fait que c'est ça.
Vraiment. Puis est-ce que quand vous avez décidé de ramener Contrat de gars, est-ce que vous avez trouvé des sujets que vous êtes dit non, ça, on peut plus parler de ça en 2025? Ou vous êtes allé en disant, regarde, nous autres, on est des personnages, on est des humoristes, on montre ce qu'on veut montrer, puis advienne que pourra?
Écoute, c'est un mélange des deux dans le sens où on s'est dit c'est quoi les sujets qu'on peut pas parler, puis comment on peut en parler en humour? Sans humilier qui que ce soit au passage. Parce que c'est ça qui est important.
T'sais. C'est tough, ça.
Ben, c'est ça l'exercice. Oui. Quand t'es drôle, puis tu prétends que t'es drôle, puis que t'es humoriste, il faut que t'aies fait le travail supplémentaire pour trouver des manières de rire de tout, sans humilier personne. C'est ta job, ça. Tu peux rester dans les clichés, les stéréotypes. C'est un principe humoristique tellement facile, mais en même temps qui rassemble beaucoup. Tu sais, je prends Adib Al-Khalidé, par exemple, qui vient de l'Afrique du Nord, qui est un gars que j'adore, tu sais, qui fait des blagues que je ne pourrais pas me permettre de faire nécessairement, mais je suis content que lui les fasse. Parce que ça me fait découvrir sa culture à lui avec ses yeux. Ça me fait découvrir la culture québécoise à travers ses yeux. Je pense à Oussama Farès, Anas Asuna, c'est des gars qui ont cette expérience-là, puis qui voient la société québécoise d'une autre manière. Puis ça me fait rire. C'est un exemple parmi tant d'autres, tu sais, les personnes queer, les personnes homosexuelles. Je me dis, ces jokes-là sont faites par ces gens-là, puis ça passe, puis c'est le fun. J'ai pas besoin de les faire. Puis si je dois les faire, mais je vais les faire d'une façon intelligente, dans laquelle j'essaie de passer un message, dans laquelle j'humilie pas personne, puis dans laquelle c'est vraiment drôle. En même temps, ça me dérange pas un peu d'égratigner des fois, là. Ça fait partie de l'humour, tu sais, se roaster, donner des petits coups de coude, ça fait partie de la game. Fait que si je fais des choses qui te déplaisent, je suis prêt à prendre le blâme et la responsabilité, mais mon but, c'est de réfléchir avant ça. C'est de faire comme, voici le sujet chaud de l'heure auquel personne veut toucher. Est-ce que c'est possible de le faire? Allons-y. C'est plus comme ça qu'on réfléchit avec contrat de gars.
Les premiers contrats de gars que vous avez fait, comparativement à ceux que vous faites là présentement, c'est-tu à peu près le même temps que ça prend pour faire la production et tout ça? Ou bien ça va beaucoup plus rapidement ou encore c'est encore plus long qu'avant? Là?
Ça va plus rapidement parce qu'on a comme un podcast qu'on appelle le Mallcast. Fait qu'on arrive avec un invité qui nous propose quelque chose ou à qui on propose quelque chose. On va faire peut-être un 40 minutes de tournage. On va garder les meilleurs 10, 15, dépendamment. Avec du montage, on est juste plus vieux et plus essoufflé. Mais ça paraît pas à cause du montage. Fait que c'est moins intense, mais je pense qu'il y a plus de place à la connerie. Tu sais, on voit que c'est nous deux en personnage, c'est... Fallait le faire différemment, puis fallait l'essayer. Puis c'est ça qu'on teste présentement.
T'as-tu l'impression de revivre un peu de ta passion? Parce que pendant des années, t'es resté à l'extérieur de l'humour, quoique t'étais encore très présent sur les réseaux sociaux. Tu as des réflexions, des fois, que je trouve intéressantes. Des fois, c'est des réflexions Merci. Qui sont humoristiques, puis j'adore ça. Mais de revenir un peu aux sources, ça te fait-tu... Est-ce que c'est une deuxième vie qui commence?
Pas tant, c'est... Je te dirais que j'y vais toujours avec la passion en premier. Tu sais, j'essaie de voir est-ce que je suis capable d'exploiter cette envie-là que j'ai de découvrir tel ou tel milieu. La photo, ça m'habite depuis plus de 30 ans. Là. Tu sais, j'ai 39, j'ai commencé à 6 ans, fait que 33 ans de photo, une relation un peu on and off avec la photo. Après ça, l'humour, je sentais que j'avais pas le vécu puis l'étoffe que ça prenait pour poursuivre. J'ai eu l'opportunité de faire des photos. Je suis embarqué là-dedans à pieds joints. Tu sais, il y a aucun passage de cette vie-là que je regrette. J'étais pas dans 3 fois par jour en me disant « j'ai donc bien hâte de m'en aller puis de faire de l'humour ». J'étais dans 3 fois par jour, j'étais là-dedans. Après ça, j'étais dans mon studio, mes ateliers de photos, ma fondation. Je fais chaque chose avec intention. C'est vraiment important pour moi. Puis après ça, ben je peux faire les deux. Tu vois, comme là, j'ai une longue pause cet été, je vais en profiter pour faire des photoreportages parce que c'est ça que j'aime le plus faire. Tu sais. Mm-hmm. Fait que... C'est un peu ça, c'est que je me suis gardé des environnements dans lesquels je peux avoir de la joie, rencontrer des gens, établir des connexions, poursuivre mes réflexions, essayer de me faire challenger mon esprit. Puis c'est juste pour moi, c'est une suite logique, en fait.
Parce que je regardais les articles tantôt qui avaient été écrits sur toi dans les derniers jours, les dernières semaines, puis très souvent, on mettait de l'avant comme quoi tu étais le conjoint de Marie-Lou. Puis bon, le conjoint de Marie-Lou.
Ben, je suis plus son conjoint, fait que c'est bizarre si les gens continuent à penser qu'on est ensemble.
Mais tu sais, très souvent, il te présentait comme le conjoint de Marie-Lou, l'ex-conjoint de Marie-Lou et tout ça. Mais là, c'est le fun de voir que c'est Alex Champagne qui est là, puis c'est pas. Il n'y a pas de Marie-Lou dans la place. Là. C'est toi, c'est ce que tu fais, c'est tes créations avec tes collaborateurs et tout ça. Tu reprends ta place qui t'est due. Tu sais, quand t'es le fils de un ou quand t'es la femme de un ou le mari de l'autre, je veux dire, à un moment donné, tu veux avoir ta propre personnalité.
Bien, comme je dis, quand t'as un côté public à ta vie, les gens s'approprient ton histoire puis en font bien ce qu'ils veulent. Moi, j'ai lâché prise là-dessus. Puis demande-moi si ça me dérange d'être associé à une femme qui est extrêmement belle, intelligente puis qui a du succès. Vraiment pas. Ça me fait pas un pli, tu sais. Marie-Lou n'a jamais été dans mon nom, mais j'ai jamais été dans la sienne non plus. On a collaboré, puis écoute, ça fait plus d'années qu'on n'est plus ensemble que de temps qu'on a été ensemble en couple. Tant mieux si les gens gardent un souvenir ou peuvent m'associer à elle. C'est une joie pour moi. Là. C'est ma meilleure amie, Marie-Lou, c'est la mère de ma fille. C'est une personne à qui je parle au quotidien, avec qui j'ai des bonnes réflexions, qui me donne un coup de main sur un paquet d'affaires et vice-versa. Les gens veulent en parler comme ça, tant mieux. Puis j'ai pas l'impression que je perds mon identité quand on me nomme aux côtés de quelqu'un d'autre. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Ça me fait rire. Des fois, il y a des gens qui se servent de ça pour m'insulter. Genre, c'est bien toi, là. t'es juste l'ex à Marie-Lou, je suis comme, oh, et puis pour une autre personne, je suis la meilleure chose qui est jamais arrivée sur Terre. Puis pour une autre personne, je devrais pas exister. Puis pour une autre personne, c'est une autre affaire. Puis ouais. comme, moi, ce qui m'importe, là, c'est est-ce que j'ai fait des choses intéressantes aujourd'hui? Est-ce que ma fille est en santé? Est-ce que tout le monde est capable de manger? Puis qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le sort du plus grand nombre possible? Le reste, là, comme on dit en bon français, je m'en calisse complètement. Là. Les gens peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Je ne vais jamais demander aux gens de se taire ou d'être dans la bienveillance ou la gratitude pour ce que je suis comme. Faites vos affaires, je fais les miennes. Puis tant mieux si nos routes se croisent positivement. Le reste, ça ne m'appartient pas.
Tu es très alerte aussi sur les réseaux sociaux. Face à la critique, est-ce que tu es ouvert ou tu te dis non, regarde, ils ont pas pensé ce qu'ils veulent?
Je suis vraiment ouvert.
Ah oui.
Je suis très ouvert à la critique parce qu'on est le produit. Tu sais, moi, là, le concept de self-made man, c'est une des choses que je trouve les plus risibles au monde. Tu as appris à lire, tu as appris à écrire, tu as lu des livres, tu as eu des parents, tu as croisé des gens, tu as été inspiré par le travail des autres, tu as vu des choses. L'histoire a raconté tellement d'affaires inspirantes. C'est pas vrai que tu as fait les choses tout seul. Donc, je trouve toujours que c'est important d'écouter les autres parce que c'est des conseils gratuits. Là. C'est hot. Là. C'est de la consultation gratuite, c'est du feedback en continu qui coûte rien puis qui peut t'amener ailleurs. Bien sûr, quand c'est des insultes, je ris. Tu sais, des fois, des amis qui me montrent des affaires, je suis comme, hey. Des fois, il y a des gens qui inventent des affaires sur toi-même. C'est toujours, ça me fait, je dis des gens vraiment de l'imagination.
Il y a des gens qui inventent des affaires sur toi. Moi aussi, ça m'est arrivé à travailler à la radio.
Nécessairement,
ça ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Là. Des fois, il y a des gens qui t'aiment tout simplement pas, mais qui t'écoutent pareil. Ça, c'est le meilleur public.
C'est correct.
Mais
c'est correct. Ça fait partie des choses. Les gens ont le droit de s'exprimer. Les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent croire. Ouais. C'est pas... Je vais me battre toute ma vie pour que ces gens-là puissent dire des affaires horribles sur moi. C'est pas un problème.
Mais ils inventent des choses.
C'est pas ça, mon... j'ai déjà lu que ma fille n'était pas ma propre fille. J'ai lu que j'étais dans une secte. j'ai des affaires que je me dis, mais de où ça part? J'ai déjà lu un commentaire qui disait « Je connais la famille de proches et je sais de source sûre que sa fille n'est pas sa fille. » Je suis comme, là, on a deux choix. C'est une personne qui vit dans un monde parallèle où c'est ma mère qui va dire de la merde sur les réseaux sociaux elle, juste pour le fun, pour me gosser, puis elle va me le dire dans 15 ans quand elle va mourir. Tu sais, c'est... J'ai pas le contrôle là-dessus et j'accepte à tous les jours avec une aisance désarmante de que ça existe aussi, tu sais, c'est correct. Mais la critique, quand c'est constructif, oh man, j'aime tellement ça. Comme par exemple, quand je suis allé à « Tout peut arriver » à Radio-Canada, il y a Alex qui m'a... Alex est... oh mon Dieu, je veux les nommer comme du monde. Voyons. Ah! Yeah, il était à Musique Plus! J'ai un blanc de mémoire, un trou de mémoire.
Ça va revenir.
Comment il s'appelle? Steph, voyons. Oh mon Dieu. En tout cas, tu peux couper cette bout-là, si tu veux. Ou montrer à tout le monde que j'ai des fois une mémoire correcte.
C'est-tu la Frenière? C'est pas la Frenière.
Attends, je vais te le trouver. Parce qu'on s'est parlé récemment, puis justement, je lui disais, j'aimerais ça te nommer, parce que il y avait... OK, Alex vient, qui a fait une critique,
ouais.
Et j'ai juste Gonzo en tête cette année.
Alex Gonzalez. Stéphane Gonzalez.
Stéphane Gonzalez et Alex vient. Ils ont fait une critique en direct à l'émission. J'ai adoré l'exercice. De me faire dire, moi, c'est telle affaire, je suis plus capable d'entendre ça en 2025. Le bout au début, c'est trop long. C'est un peu décousu. J'étais comme, OK, cool. C'est vrai. C'est vrai que telle affaire, tout ça. C'est un spectacle qui est appelé à évoluer, qui est quand même rendu très solide. Je suis très, très fier de ce qu'on a comme spectacle. Mais au lancement, j'avais ajouté quelque chose, j'avais enlevé un truc, là, j'avais oublié deux blagues parce que j'étais un petit peu plus nerveux qu'à l'habitude. Puis j'ai fait les ajustements dont les critiques avaient parlé, puis à Québec, ça s'est vraiment bien passé. Fait que ça, j'étais content. Moi, si je pouvais prendre ça tous les jours, let's go. Là. Mon travail, c'est divertir. Fait que si quelqu'un vient me voir puis dit, écoute, ton travail, fait de telle manière, voici les forces, voici les faiblesses, je capote. Si une personne ouvre la porte puis vient me dire, t'es un mangeur de merde, je vais faire, ben, là, t'amènes rien sur la table. Là. C'est pas bon pour personne. Là. Fait que c'est correct. Tu as le droit de penser ça. Je respecte ton opinion. Mais moi, ça me sert à rien. Fait que j'amène pas ça avec moi. Là.
Okay. Mais je vois que
c'est comme ça que je vois ça.
Je vois que t'es un gars très, très ouvert à la critique. Moi, je le suis pas tant. Là. À un moment donné, quand ça dépasse l'entendement, je me dis, OK, là, c'est fini. Là, c'est votant. Là, bon, dans ton cas, toi, ton spectacle s'appelle La Grande Désorganisation. Tu l'as appelé comme ça. Pourquoi?
Parce que je suis une personne qui est très désorganisée, mais qui arrive toujours à faire arriver les choses. Okay. À la fin, parce que je trouve l'énergie de dernière minute, je sais très bien m'entourer. J'ai toujours eu des collègues formidables.
Mais t'es conscient que quand on te suit, Alex Champagne, quand on te suit, là, on n'a pas l'impression que t'es désorganisé. Au contraire, on a l'impression que t'es très, très organisé.
C'est fascinant, n'est-ce pas? j'ai des gens qui me donnent des grands coups de main, puis j'en parle souvent de ces personnes-là, notamment Marie-Lou. Tous les gens qui ont travaillé avec nous chez 3 fois par jour. Emmanuel Parent, avec qui j'ai cofondé Le Ciel, ma fondation, notre fondation, vraiment. Là, c'était mon idée au départ, mais écoute, ça appartient à tout le monde, cette fondation-là. J'ai toujours eu des gens extraordinaires autour de moi, même Joe Robert, Stéphane Fortin pour Contrat de gars. Je te dirais, là où je suis le plus tout seul, c'est le studio puis les ateliers de photos. Puis c'est là où j'aimerais donner plus d'amour dans mes journées. Mais sinon, c'est ça, j'ai toujours été bien entouré, donc les choses s'organisent, puis c'est pas difficile de faire arriver les choses, à mon avis, puis je suis content d'avoir l'air organisé, mais je suis assez pêle-mêle, là, en général.
Parce que moi, quand j'ai vu le titre de ton spectacle, je m'attendais pas à ça d'Alexandre Champagne, parce que tu as de l'air tout le temps organisé dans tes affaires. Tu sais, 3 fois par jour, c'est pas 3 fois rien, c'est 3 fois par jour. C'était super bien fait et tout ça. Puis il y avait une esthétique dans l'image qui était juste hallucinante. Puis je pense que c'est ce qui a fait la renommée de ce que vous avez mis en place, toi et Marie-Lou. Quand j'ai vu le titre, La Grande Désorganisation, OK, ben tu vois, j'imagine qu'il va nous dire le contraire pendant le spectacle.
Ben, en fait, c'est que, tu sais, 3 fois par jour, c'est drôle parce que ça avait l'air organisé. C'était organisé. Marie-Lou est une fille très organisée, mais à toutes les fois qu'on publiait, qu'on faisait quelque chose, on se demandait vraiment où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Là.
Ah oui?
À toutes les fois. Oui, oui. Moi, je veux m'adresser aux personnes qui veulent entreprendre un projet, une idée, changer de carrière, tout ça. Ma phrase préférée, c'est « faut que ça vive ». Tu peux pas... Tu sais... Le perfectionnisme, c'est la meilleure excuse pour l'insécurité. Puis quand t'as une pulsion de mettre quelque chose au monde, un projet, une idée, changer de carrière, whatever, faut que ça vive. Fait qu'il faut faire le premier pas. C'est le plus difficile. Puis ensuite de ça, tu t'ajustes. Puis là, tu découvres que t'as plus de qualité que tu pensais. Tu peux aller plus loin que tu pensais. Tes limites sont beaucoup plus loin que ce que tu pensais. C'est ça que je dis aux gens. Il faut que ça vive. 3 fois par jour, ça a été ça. Contrat de gars, ça a été ça. Ma fondation, ça a été ça. Mes ateliers de photos pour téléphone cellulaire, ça a été ça. Tout était, à un moment donné, garde. Il faut que j'arrête de branler dans le manche, puis que je... faut que ça vive. Fait que tu lances ça, tu fais tes affaires, puis, tu sais, faut que tu prennes la critique. Ça, c'est très important de rester humble. Pour rester humble, curieux et vulnérable, faut que ça vive, puis après ça, go. T'sais, fais les affaires, là. On va... C'est pas grave ce que les gens pensent. Il faut savoir choisir qu'est-ce qui nous aide à avancer, puis enlever le bruit. Puis bien sûr, là, j'ai 40 ans. À 18, je t'aurais pas dit la même affaire. Là.
Non, c'est ça.
Mais rendu à 40, c'est plus facile, effectivement. Mais faut que ça vive. Faites-le. Puis vous allez voir après.
Dans ton spectacle, Alexandre Champagne, qui s'appelle La Grande Désorganisation que tu as fait à la salle Albert Rousseau lundi. Les sujets que tu as décidé d'amener sur scène, tu les as choisis de quelle façon? Puis en même temps, est-ce que tu te disais, hey, je suis encore à jour sur les sujets, là, les choses à dire, les choses à ne pas dire?
Ben écoute, tout a été dit sauf par toi-même. Ça, c'est quelque chose qu'on se répétait beaucoup à l'école de l'humour quand j'étais là entre 2004 et 2007. Tout a été dit, tout a été fait, là. Je veux dire, c'est difficile d'innover. Tu peux innover de par ta personnalité, ta façon de voir les choses, mais les choses restent les choses. On est sur la planète Terre. Tu sais, je suis devenu papa, donc évidemment, je vais parler de paternité, je vais parler de masculinité aussi à cause de Contrat de gars puis ma relation avec tout ce qui est masculin. Je parle de la langue française parce que ça m'anime beaucoup. Je parle du TDAH et du HPI, le fameux diagnostic de douance, où tous les gens pensent que quand tu as ça, tu t'en vas dans un manoir comme dans X-Men, puis tu peux pitcher du feu avec tes mains, alors que c'est tellement plus subtil que ça. on est au premier pas de la découverte de comment on quantifie l'intelligence puis de quelle manière on le fait. Je parle de ça. Je parle de 3 fois par jour. Je parle de l'Internet. C'est tous des sujets qui restent. Puis j'avais Magali Saint-Vincent et Julie Dignard, qui était script éditrice, Magali qui a écrit avec moi là-dessus. Magali, elle faisait justement ça. Elle me disait, écoute, ce sujet-là, c'est comme un peu la coqueluche présentement. Fait que soit tu as des excellents gags qui vont ailleurs, soit tu fermes ta boîte. J'étais comme, j'adore ça. C'est important de savoir ça. Surtout pour pas s'aventurer dans des terrains connus qui pourraient enlever des gags à d'autres humoristes ou de l'attention sur leur façon d'amener le sujet. Puis c'est comme ça que j'ai avancé dans le spectacle. Je me disais, qu'est-ce qui m'amène? C'est quoi le sujet dont tu me parles qui va faire en sorte que j'ai envie d'en parler pendant 10 minutes de façon intensive avec des gags? Ben, c'est comme ça un peu. Je parle du diabète aussi. Je suis diabétique depuis 11 ans maintenant. Je parle de sobriété. Ça fait aussi 11 ans que je suis sobre. Les deux événements ne sont pas du tout liés. C'est une coïncidence. C'est les sujets que j'ai choisi de parler, puis c'est parce que c'est des sujets que je maîtrise aussi. Je dis pas n'importe quoi, puis j'invente rien, puis c'est un partage d'expérience humaine avec les gens qui viennent.
Ouais. Est-ce que t'es un gars qui prend énormément de notes, parce que j'ai régulièrement réalisé des entrevues avec des humoristes, là, que ce soit homme ou femme, puis très souvent, je tombe sur des gens qui prennent beaucoup de notes sur les petites anecdotes qui arrivent dans leur vie, puis pour partir leur début d'histoire, puis par la suite créer. T'es-tu un gars comme ça?
Non. J'ai vraiment, vraiment une très, très, très bonne mémoire. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, je m'en souviens. Des fois, je vais me prendre une petite note. Là, si j'ai une phrase là, que je veux dire ou mettre en mots de façon spécifique, je vais faire ça. Mais je ne suis pas quelqu'un qui prend tout le temps des notes. Je me souviens des trucs qui me font réagir fortement. Puis je me sens dans un tiroir. Dans ma tête.
Oui, c'est une force. Fait que j'imagine, toi, la page blanche, ça arrive pas vraiment. Puis les petits moments où tu es sur scène où tu oublies ta prochaine ligne, ça ne fonctionne pas. Là.
Ben, je trouve que la vie est drôle en soi. Tu sais, j'ai réalisé que ma manière de passer à travers la difficulté de la vie, là, tout le monde a sa propre manière de passer à travers les choses absurdes qui arrivent, auxquelles on a de plus en plus accès là, en passant. Là. C'est que j'ai réalisé que ma façon de voir les choses était drôle. Puis je me servais de tourner ça au ridicule pour passer à travers. Fait que c'est ma nature, tu sais, de faire des jokes. Alors, c'est pas difficile pour moi de transférer ça sur scène du tout. Mais il y a des bons gars que je sais que j'avais que j'oublie des fois. Je me dis, ah, je savais qu'il était vraiment bon, puis là, je m'en souviens plus, mais j'ai confiance que je vais en trouver d'autres, fait que ça me dérange comme pas. À l'école, on disait, t'es pas un sac à blagues. Fait qu'on peut pas arriver un moment donné dans le fond du sac, puis il y a plus de blagues. C'est comme, c'est une source qui se renouvelle, tu sais. Fait que c'est plus comme ça que je le vois.
Tu me sembles très humain. Moi, je te connaissais pas au personnel, on s'était jamais jasé, mais tu me sembles très humain. Il y a beaucoup d'humoristes qui ne veulent pas parler de l'argent que les humoristes font. T'sais, on sait qu'il y a plusieurs humoristes qui sont multimillionnaires. Il y en a d'autres qui grattent les scènes. Toi, tu t'as parlé comme quoi tu étais indépendant de fortune. T'es-tu capable de rester grounded tout en étant indépendant de fortune sur la vie des gens qui t'entourent?
c'est drôle, hein, parce que t'sais, l'argent, ça fluctue. J'ai eu des très bonnes années, j'ai eu des moins bonnes années. Récemment, j'ai financé plein de projets en temps, en énergie, en argent.
Ouais.
J'ai pas le capital que j'ai déjà eu, puis ça me dérange pas. Parce que au moment où j'ai commencé à faire beaucoup de sous, là, je te dirais que j'étais pas du tout groundé. Je m'étais comme approprié une valeur supplémentaire à ce moment-là parce que moi, j'avais réussi à faire de l'argent. Puis c'est là que j'ai compris qu'on voyait l'argent comme une mesure presque ultime de succès et de réussite. Alors que ça ne fitait pas avec mon système de valeurs. C'est quand même une chance de pouvoir parler de façon aussi détachée de l'argent, je le sais très bien. Je suis très, très au courant de ça. Puis je pense que ce qui me garde groundé, c'est là d'où vient ma famille, puis d'être le plus conscient et lucide possible à la réalité de la plupart des gens. Tu sais. J'en parlais hier en entrevue. À chaque année, on demande à des gens de faire des sacrifices parce qu'on n'a pas d'argent pour X, on n'a pas d'argent pour Y. Puis les seules personnes à qui on demande de faire des sacrifices, c'est les plus pauvres. Ah, tu sais, dans le fond, t'as juste à pas avoir le gros forfait du iPhone. Ah, dans le fond, t'as juste à moins manger au restaurant. Puis tu sais, je veux dire, Chris, On ne dit jamais, dans le fond, tu as juste à payer plus d'impôts. Sacrement, il te reste 800 millions dans ton compte, là. Pas en valeur perçue, en valeur nette. Tu as 800 millions. As-tu besoin de 4 bateaux? Les gens ont le droit, là. Ils ont le droit de faire ça. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est correct. Sauf qu'il y a un indice qui s'appelle le coût de la vie. Puis il y a des personnes qui, malgré le fait qu'elles travaillent dur, moi, ça me fait rire. Ah, j'ai réussi, puis je suis riche, puis j'ai travaillé fort. Hey, va faire un tour à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, voir si les gens travaillent pas fort, 40 heures, 45, 50 heures par semaine, à torcher vos grands-parents, puis venez me dire que vous méritez plus qu'eux autres d'avoir un bateau qui vaut 600 000 piastres. Fait que je pense que la conversation, c'est de relativiser les choses.
Ouais.
J'en ai pas contre le capitalisme.
Non, mais c'est ça.
J'en ai pas contre l'argent. J'en ai pas contre les riches. Mais je pense qu'il faut relativiser. Il faut comprendre sa place. Mais il faut aussi comprendre que c'est à cause des personnes riches qu'on a un système social qui fonctionne, en tout cas, entre guillemets, bien. Parce que c'est les personnes riches qui se tapent la majorité de la facture. Donc, comment on fait, tu sais, pour avoir la bonne conversation sur l'argent? Je ne le sais pas, mais j'ai vraiment envie de la démarrer, cette conversation-là.
Ouais.
Parce que j'avais des grands-parents sur l'aide sociale. Puis j'ai déjà tenu un chèque d'1 million dans mes mains. Puis je ne sens pas que j'ai travaillé plus ou que je le mérite plus que qui que ce soit. Fait que c'est comme si on avait envoyé un gars dans cet univers-là qui est revenu de l'univers en faisant comme « Oh my God, c'est tellement weird ». Les gens te traitent différemment quand ils savent que tu fais des revenus. Puis moi, j'aime pas ça. Je n'aime pas tout ce qui divise les gens par les classes, par les maladies chroniques. J'aime pas ça. J'ai toujours haï ça. Je trouve qu'on manque de mesures incitatives de trouver des dénominateurs communs entre les gens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se divise de plus en plus de la façon dont les réseaux sociaux mettent les gens en relation. Ça appelle à se diviser, à se séparer, à faire des plus petits groupes, de plus en plus des petits groupes, puis à conforter l'individu dans le fait qu'il est spécial et qu'il ne doit pas vivre des choses difficiles et qu'il ne doit pas entrer en conflit avec les autres et que si les autres ne sont pas d'accord, il y a juste à les revirer de la main ou à les bloquer, puis c'est correct. Regarde, à la fin de la journée, il faut quand même qu'on vive ensemble, puis on paye quand même tout de l'impôt, puis on s'attend quand même tout à avoir des bons services. Fait que moi, j'ai vraiment besoin qu'on ait cette conversation-là sur l'argent. À quel point on a des gouvernements qui la dépensent de façon irresponsable, à quel point les gens qui en ont beaucoup souvent ne sont pas au fait du pouvoir qu'ils ont sur le bien-être d'un énorme groupe de gens. Fait que, mais je ne condamne pas personne, je ne fais pas la morale à personne, puis je ne diabolise pas l'argent. J'adore le cash. C'est super le fun d'avoir de l'argent. Tu veux le savoir, là? C'est vraiment le fun parce que tu n'as pas à penser je vais te arriver la semaine prochaine ou est-ce que mes enfants vont manger. Tu me demandes où je veux être. Of course que je ne veux pas être en bas. Tu comprends? C'est normal. Il n'y a personne qui veut être là. Fait que comment on fait pour prendre les personnes qui sont là puis les élever un peu plus, pour lever la barre au lieu de descendre à chaque année les standards, tu sais.
Ouais, j'adore. Je parlais avec un humoriste il y a de ça quelques semaines, puis c'était pas en onde, là, c'était juste avant de rentrer en onde, puis il me mentionnait à quel point ça avait été dur pour lui quand ça a commencé à vraiment bien aller pour lui. Il était en train d'ouvrir ses lettres qu'il avait reçues par la malle, bien entendu. Sa mère était juste à côté et son père était derrière lui. Puis quand il a ouvert la lettre, il disait « C'est quoi ça? » Puis les parents ont vu le montant que l'humoriste avait reçu par la malle. Et son père s'était mis à brailler en disant « J'ai travaillé toute ma vie puis j'ai même pas été capable de faire ça à la fin de ma carrière. » Puis tu as raison, là, tu parlais des hôpitaux tout à l'heure. Il y a des gens qui travaillent extrêmement fort. Des fois, c'est du temps double, à 80 heures par semaine, à changer les couches de nos parents. Puis il n'y aurait jamais accès à ces chèques-là. T'sais. Fait que tu as raison quand tu dis, c'est pas parce que tu travailles fort que tu vas faire énormément d'argent. Tu peux travailler fort puis pas en faire pantoute. Il y a des gens qui font du bénévolat pendant 40-50 heures puis ça leur rapporte exact. Rien monétairement. Mais au niveau de l'impression que tu as d'avoir donné à ton prochain, ça vaut tout l'or du monde. Ah, mais c'est le fun.
Ben, c'est parce que je veux juste appeler les gens à savoir que le sentiment du devoir accompli, il faut qu'il soit détaché d'un montant d'argent qu'on octroie au produit fini que tu donnes quand tu travailles. T'sais. Puis il y a une injustice là-dedans. Il y a vraiment une injustice. En même temps, c'est toutes des choses qui sont légales et correctes. Si moi, je fais un spectacle devant 2000 personnes, que 2000 personnes payent 50$ le billet, que j'ai une redevance là-dessus, plus des droits d'auteur, bien, j'ai pas forcé personne à venir au spectacle. J'ai travaillé des heures pour faire le spectacle. C'est que, techniquement, ce marché-là, ce métier-là, c'est ça qui rapporte. Après ça, la personne peut bien faire ce qu'elle veut avec son argent.
Ouais.
Mais je pense qu'il faut augmenter dans l'éducation la pensée critique la place qu'on réserve au fait de montrer aux jeunes c'est quoi la misère du monde, comment on fait pour utiliser l'argent comme un outil et non comme une espèce de diplôme ou un certificat de réussite. C'est ça la conversation que je veux avoir. Ça prend de l'argent pour faire de l'argent, ça prend de l'argent pour faire avancer les projets. Mais quand j'entends que le stationnement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont va coûter presque 100 millions, 85, je me dis, on peut-tu y aller, asti, 200 gars? 3 mois, mettons. T'sais, vous nous fournissez les outils et le matériel, puis on va s'organiser, là. Ça va coûter moins cher que ça, ça n'a pas de bon sens. Le stade, 873 millions. Je veux dire, moi, à la gang, là, moi, je me fais un groupe Facebook, là, je me ramasse des gars et des filles. On se donne une semaine, on le décrisse à coup de masse. Là. Puis après ça, on se fait une chaîne jusqu'à un bateau dans le fleuve qui va amener la roche comme loin. C'est sûr qu'on s'en tirait. Je ne peux pas croire. Ça se peut pas. Quand tu connais l'argent, puis tu as connu les montants, puis tu sais c'est quoi le coût de la vie, puis tu regardes combien ils sont dépensés pour des choses, puis ils essayent de justifier ça, là, 1,5 milliard pour la SA Click. Tu fais non, attends un peu, là, buddy. Là. Il y a beaucoup de monde qui s'en sont mis dans les poches là-dedans. Là. Puis c'est pas vrai que ça coûte 500 $ faire un site Internet. Là. Il y a des adolescents qui font des centaines de milliers de dollars par mois sur un iPhone pendant leur journée pédagogique. Là. Arrêtez, là. Fait que c'est viscéral. J'ai besoin qu'on parle d'argent. Ça suffit, là, de gatekeeper l'information sur l'argent puis la fortune, puis de rendre ça cérébral, d'intellectualiser pour que le plus petit nombre de gens possible comprennent puis s'approprient la masse monétaire. Ça, c'est... tu vois, ça me met en tabarnak. Ah ben fait que je vais sûrement en parler dans mon prochain spectacle.
Je te le souhaite. Je rappelle aux auditeurs qu'on a le plaisir d'être ce soir avec Alexandre Champagne. Il faisait sa première médiatique il y a de ça quelques jours. La grande désorganisation à la salle Albert Rousseau, ça a été bien reçu. Les critiques sont bonnes jusqu'à maintenant. Pour les gens qui voudraient assister à tes prochains spectacles, là, tu m'as dit que tu avais une petite pause là, pendant quelques jours, quelques mois par la suite. Là. Mais ça, on peut acheter tes billets à quel endroit?
Sur mon site internet, c'est alexandrechampagne.co. C'est pas .com parce que je me suis fait voler le nom de domaine il y a des années puis ils me demandent beaucoup, beaucoup d'argent pour leur avoir. Fait que j'ai juste acheté un nom de domaine en Colombie. Fait que c'est alexandrechampagne.co sans le M. Puis vous allez dans le spectacle d'humour, puis les dates sont là. Il y a des dates qui sont pas encore en vente, mais qui sont annoncées. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon infolettre pour avoir les dernières nouvelles par rapport à ça. Puis si jamais vous voyez que je passe pas dans votre ville, vous pouvez écrire des courriels ou appeler à votre salle de spectacle préférée pour qu'ils me rentrent en programmation. Ça donne toujours un coup de main aussi.
Ah, c'est intéressant, on va en reparler après la pause. On s'arrête quelques secondes et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le Rock and Chill avec Audrey Pinchot. C'est le même feeling que d'assister au MTV Unplugged de ton band préféré, mais dans ton salon ou ton lit ou à pratique de tes kids. À vous joue des covers, des versions acoustiques. Un paquet d'affaires qui s'écoutent bien tranquille les matins de fin de semaine. Le Rock and Chill, samedi et dimanche, 7h.
Une présentation du show Rock and Chill ultime pour les fans des années 90. Big Muff Génération Unplugged, en supplémentaire le 7 septembre, vous attend à l'Anglicane de Lévis avec ses 7 musiciens en formation acoustique au son de Nirvana, Smashing Pumpkins, Green Day et plus. Billets en vente sur espacedcl.ca.
Planifiez votre consultation sans frais en détatouage pour enfin dire bye-bye tatou chez Viva et obtenez une carte cadeau de 125 $. Du jamais vu. Cliniqueviva.com.
Chez Miville Climatisation, on est concessionnaire autorisé Mitsubishi Electric numéro 1 au Québec. On est même lauréat du prix Diamant témoignant de notre excellence. Grâce à nos thermopompes performantes chez Miville Climatisation, ça fait 57 ans qu'on garantit votre confort. Visitez miville.ca.
Enfin, le kimono de Charlebourg, situé dans l'ancien local des Frères Toc, est maintenant ouvert 7 soirs et tous les midis du lundi au vendredi. De plus, vous pouvez maintenant profiter du comptoir pour emporter. Commandez en ligne pour la livraison ou passez le prendre. Visitez kimono.ca.
Patio ou piscine en vue? Décorama, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre rapidement une fabrication québécoise sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15%. Rendez-vous sur déco-rang.com ou visitez-nous à Québec, Lévis ou Saint-Apollinaire.
Le samedi 10 mai, à l'église Sainte-Thérèse, il y aura un grand rassemblement d'adoration. Joignez-vous à la communauté pour vivre cette expérience de foi enrichissante. Remettre ses tracas plus grand que soi vous apportera paix et sérénité. Au rendez-vous, le conférencier M. Jacques Gauthier. entier. La première conférence, sous le thème de l'École de Sainte-Thérèse de Lisieux, sera à 10h et la deuxième, sous le thème des 10 chemins pour renouveler sa vie spirituelle, sera à 15h. Détails au petitethérèse.org.
C'est le moment parfait pour passer à l'électrique chez Marlin Chevrolet Buick GMC. Les subventions sont de retour et notre vaste inventaire d'Equinox et Blazer EV vous attend. Il y en a pour tous les goûts. Et ce n'est pas tout. L'événement camion bat son plein avec du financement à partir de 0% et plusieurs nouveaux arrivages ont fait leur entrée en concession. Ne manquez pas ça. On vous attend au 2145 rue Frank Carrel, Marlin Chevrolet Buick GMC, votre concessionnaire GM de confiance à Sainte-Foy.
À la recherche d'un condo locatif dans un milieu de vie dynamique et moderne? Ne cherchez plus. Découvrez les condos locatifs Medway. Pour un déménagement immédiat, cet été ou à l'automne, on a ce qu'il vous faut selon vos besoins et votre budget. Offrez-vous le confort d'un complexe neuf et profitez des promotions en cours, incluant des rabais équivalents à plusieurs mois de loyer. Offres avantageuses et processus simples. Visitez nos unités à Québec et Lévis. Tous les détails au condomedway.ca.
Oui, Miss Oui International!
Party Noël, anniversaire, fête de bureau, rassemblement familial.
Miss Oui International!
En plus, c'est la saison des homards. Ne manquez pas ça. Méchoui International. Du plaisir et de la bouffe à volonté.
Avec de l'Internet fibre 300 Mbps par seconde à 45 $ par mois, e-box, c'est vraiment le meilleur coloc que tu peux avoir. Puis, parle pas pendant les soirées cinéma, contrairement à vos enfants.
Fait que là, j'ai dit OK. Puis, il m'a répondu, je sais pas. Puis là, j'étais comme, quoi?
Chut! Détail au e-box.ca.
Vous êtes organisée, rigoureuse et passionnée par les chiffres? Les entreprises Paradis Leclerc cherchent une technicienne comptable pour se joindre à une équipe dynamique et humaine.
Poste permanent, horaires flexibles et un environnement où vos compétences sont reconnues et valorisées.
Postulez dès aujourd'hui sur paradis-leclerc.com et faites avancer votre carrière avec nous. Entreprise Paradis Leclerc, solide, fiable, humain.
Coudon, il se prend pas pour un pied de céleri, lui?
Ah ben non, c'est un plant de tomate. Pour tous vos plants de légumes, c'est Jardin Amel. Avec Jardin Amel, ça pousse en fou. 6029 Boulevard Amel, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
T'es-tu tanné que ta boîte à lunch te laisse tomber?
Ouais.
Tu veux quelque chose de fraîchement préparé?
Ouais.
As-tu 5,99?
Ouais!
Si t'as répondu...
Ouais!
C'est le temps pour un 6 pouces italien BMT ou un poulet teriyaki aux oignons doux fraîchement préparé de Subway pour seulement 5,99. Hey, ça t'embauche un coin, ça, hein?
Mm-hmm.
Deux 6 pouces fraîchement préparés pour seulement 5,99 chacun. Subway, c'est frais comme ça! Fraîchement préparé à la commande dans les restaurants participants. Extra taxes et frais de livraison dessus.
Ouais!
Le 8 mai, on célèbre le leader des colocs, notre Dédé Fortin, qui nous a quittés il y a 25 ans déjà. La musique unique des colocs et leurs textes engagés ont marqué les années 90. Plusieurs de leurs chansons, comme « La rue principale » et « Tassez-vous de là », sont devenues des hymnes québécois. Dédé, dans toute son authenticité, a incarné l'espoir et la désillusion du référendum de 1995.
On n'est pas obligé de rester des Québécois avec du foin dans les oreilles et une labade dans le mois.
Sa mort tragique en 2000 a marqué au fer rouge le Québec. Avec cette émission, nous rendons hommage à son œuvre. Dédé reste un pilier de la chanson québécoise et sa poésie brute et universelle continue de nous inspirer. Ne manquez pas, je me souviens, Dédé Fortin le 8 mai 19h à Boulevard 102A.
Je me souviens, Dédé Fortin, présenté par Multiconfort FP, climatisé avant que ça chauffe, soumission rapide et gratuite, installation impeccable et service garanti en face de l'aéroport. Multiconfortfp.ca.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien. Vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
On est avec Alexandre Champagne ce soir dans le podcast de Marceau Soir. Il était à la salle Albert Rousseau il y a de ça quelques jours pour présenter son spectacle La Grande Désorganisation. Visiblement, ça va bien pour lui. Si je peux croire aux critiques que je lis présentement, ça semble bien aller. Puis j'ai pas de crainte pour lui pour les prochains mois. Alexandre, tu disais tout à l'heure, si jamais il y a des endroits, des villes qui ont des salles de spectacle, puis qui ne tombent pas à l'horaire. On peut faire pression en tant que spectateur de ces salles-là pour demander notre humoriste favori? Je savais pas.
Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est pas juste pour les humoristes, c'est n'importe quel artiste qu'on a envie de voir en scène dans sa région. D'en parler aux diffuseurs, puis aux producteurs de la région, puis aux salles de spectacle, c'est vraiment la bonne chose à faire. Puis je parle de ça là, vraiment pas pour moi, je presse pas pour ma paroisse, mais je parle de tous les artistes. C'est comme ça qu'on fait vivre les artistes, c'est comme ça qu'on fait vivre la culture, la langue française dans les salles au Québec. C'est comme ça qu'on permet à des jeunes de se faire découvrir. Fait que s'il y a des choses qui manquent à la programmation de vos salles, les diffuseurs et les salles sont plus qu'heureux d'accueillir des artistes puis d'avoir plus de spectacles à l'horaire pour pouvoir payer tout le monde, faire des sous, redonner à la région puis permettre à l'économie d'aller rondement. Tu sais. Fait que soyez jamais gênés de demander « Hey, on aimerait ça avoir telle personne, si possible. »
Ah oui.
Et plus il y en a, plus ça risque de fonctionner.
Okay. Parce que j'avais entendu qu'il y avait des artistes qui s'autoproduisaient, donc qui louaient tout simplement la salle de spectacle avec les services de distribution de billets, puis l'accueil, puis le bar et tout ça. Mais c'était un gros montant que ces humoristes-là devaient donner au départ. Fait qu'il y a plusieurs façons de fonctionner, de ce que je comprends. Là.
Ben oui, c'est ça que je parlais quand je disais qu'on a démocratisé l'accès à l'audience.
Ouais.
C'est qu'on a permis à toutes sortes de gens de faire des spectacles, d'entrer dans les salles, de se faire connaître par des diffuseurs, des producteurs, des gens qui peuvent aider. Puis les moyens de le faire sont moins dispendieux qu'avant. Puis avec Internet, l'avènement aussi du fait qu'on peut parler à plusieurs personnes en même temps, souvent, ça donne vraiment un coup de main. Fait que s'il y a des choses qui manquent dans votre programmation, dans votre région, allez voir les salles, écrivez aux salles, appelez. Puis demander les artistes que vous avez envie de voir. C'est un petit geste. Ça fait beaucoup de chemin, ça, pour les artistes au Québec.
Ouais, je parlais avec un vieil humoriste l'autre jour, Stéphane Fallu.
Pas Michel Barrette. Stéphane Fallu! Peut-être mes premiers shows avec Stéphane il y a 20 ans.
Oui, puis ben, je pense qu'il t'apprécie beaucoup parce qu'il n'y avait que de bons mots pour toi, soit dit en passant.
Ah ben même chose pour Steph, oui.
Mais il mentionnait à quel point, tu sais, pour lui, c'était un charme de remonter sur scène. Il se sentait revivre. C'est pour ça que je te parlais de ça tantôt, là, se sentir revivre quand tu remontes sur scène puis ça va bien ton spectacle. As-tu déjà des idées pour ton prochain spectacle?
Oui. Oui, j'ai des idées pour mon prochain spectacle. C'est un spectacle qui va être plus écrit. Je veux vraiment faire une espèce d'envolée lyrique là, tu sais, qui est écrit du début à la fin.
Ouais.
J'ai déjà mon titre en plus. Puis c'est un spectacle que j'écris comme si... Ben, je pense que ça va être ça. C'est pas sûr, mais comme si j'allais parler à ma fille. Parce que moi, quand je m'assois pour écrire des choses, pour expliquer, faire des publications, c'est là où je suis le plus en paix avec mes idées. Ça se bouscule pas, j'ai le temps d'effacer, de recommencer, de me relire. J'adore faire l'exercice. Fait que le prochain spectacle va être vraiment davantage comme ça.
Fait que ça finit jamais. Comme avec tous les humoristes, y a-tu des humoristes que tu suis aux États-Unis, que tu suis en Europe, qui te passionnent?
Mes humoristes préférés sont au Québec.
Ah oui?
Puis je veux pas sonner cliché, là, mais au Québec, on a Kate Levac. Kate Levac, c'est une fille qui a fait des vidéos récemment sur Instagram, à speecher dans les murs. Rosalie Vaillancourt aussi, très drôle. J'aime beaucoup Jean-Michel Martel. Arnaud Soli, je suis allé voir Arnaud hier, j'ai pleuré de rire, je le trouve incroyable. Jo Roberge aussi, que je trouve extraordinaire. Mélanie Couture, avec qui j'ai fait l'école de l'humour. Un bijou, cette fille-là. Qui d'autre? Écoute, il y en a tellement. Dans les plus, plus récents, Dom Babin, Anas Asuna, Oussama Fares aussi, tout ce groupe-là, Zach Bull.
Ouais, tu suis pas mal, Zach Bull. Tu suis pas mal la relève. Ouais, Zach Bull, là, il est trop rentré dans la tête de mes enfants. Là j'ai interdit à mes enfants.
Ma fille, elle capote dessus. Là. Il est venu tourner avec nous pour Contrat de gars, puis ma fille, elle arrête pas de me demander quand est-ce qu'on va sortir l'épisode. Moi, je l'adore, là, ce gars-là, il est tellement...
Puis avec Fallu, on avait abordé là, justement les réseaux sociaux, puis lui, il disait, ben, je dis, tu sais, Yann, je suis un vieil humoriste, puis TikTok, on essaye, mais ça ne nous tente pas nécessairement. Instagram, on essaye, ça ne nous tente pas nécessairement. Toi, c'est une facilité pour toi, les réseaux sociaux?
Ah non, ça l'était. Je comprends plus rien. Je sais plus ce qui se passe. Là, il faut faire des vidéos.
Ouais.
Puis dans les vidéos, il faut que tu mettes la bonne chanson parce que c'est ça qui marche. Il faut que tu en fasses énormément. Pour moi, c'est une énergie qui relève de la psychose, là, d'être toujours à flot là-dedans. Fait que là, je suis comme, hey, je suis plus lent qu'avant. Là, il faut qu'on mette des vidéos sur TikTok de contrat de gauche. Comme, comment on fait? sortes d'affaires, là. Tu peux rajouter des notes, des fiches. Hey, écoute, mon gars, j'étais un génie en 2014, 2010, mettons. Et là, j'étais un bon boomer, je le dis avec beaucoup d'amour, là. Mais je laisse les gens me montrer ça. Je suis comme, waouh, c'est beau.
OK. Mais au moins,
c'est beau ce que vous faites.
T'acceptes d'être sur ces plateformes-là. Puis tu,
ben oui,
tu
j'aime ça. J'aime ça parce qu'on parle, on parle avec des gens, puis je fais des rencontres hallucinantes. Puis moi, c'est pour mon cerveau qui aime l'information, en avoir beaucoup et souvent, le fait d'échanger avec les gens, c'est ça qui me rend, je pense, joyeux le plus. Là, ouais. Puis terre à terre aussi, je l'ai toujours été d'ailleurs. Là. Mais moi, j'aimais ça quand j'étais en télé, aller jaser avec les techniciens de leur caméra. Puis quand,